Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ce réveil culturel est enregistré en public au Salon du Livre et cette émission est diffusée à la radio ce vendredi 22 mars. Et ce vendredi, c'est une journée spéciale sur France Culture à l'occasion de l'exposition « Le modèle noir » qui s'ouvre au musée d'Orsay. Exposition qui s'attache à questionner la représentation des figures noires à travers les œuvres les plus révélatrices de Delacroix, Géricault, Manet ou Matisse, et quelques photos d'ailleurs, des photographies de Nadar, entre autres, une exposition qui montre aussi la personnalité des modèles noirs et leur lien avec les artistes, ce qui nous permet aujourd'hui sur France Culture d'élargir le débat. Et pour commencer, puisque le vendredi dans le réveil culturel on parle de bande dessinée, de questionner la représentation des Noirs dans la bande dessinée mondiale avec l'historien Pierre Kra, qui est présent avec nous. Merci d'être venu. Pierre Kra, vous êtes historien, donc spécialiste d'histoire afro-américaine, chargé de cours en civilisation américaine à la Sorbonne. Vous avez étudié, beaucoup écrit sur les archétypes, les caricatures et stéréotypes noirs dans les films d'animation et dans la bande dessinée américaine. Alors avant de discuter avec vous de cette représentation des Noirs, de son évolution ou pas, peut-être Pierre Kra, dites-nous pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet.
Vraiment, ce qui m'a motivé pour aller de l'avant et pour vraiment détailler ce sujet en particulier, donc que ce soit les dessins animés ou la bande dessinée, on a tendance à les considérer comme des objets d'études qui ne seraient pas légitimes parce que ça s'adresse à un public jeune, et qu'elle n'aurait pas toute la légitimité, le poids de l'histoire derrière elle qu'elle pourrait avoir. Alors qu'à mon sens, si, il y a vraiment quelque chose à en tirer, il y a quelque chose de très profond qui est très très en lien avec une époque et avec l'époque à partir de laquelle toutes ces images ont émergé.
Et plus précisément sur la représentation des Noirs dans la bande dessinée.
Mm-hmm. C'est tellement personnel, hein, mais je pense que par habitude, on va plutôt se tourner vers des médiums ou des médias, en l'occurrence comme celui du cinéma. Il y a énormément d'études qui ont déjà été publiées là-dessus, sur la représentation des Noirs dans le cinéma. Il n'y en a pratiquement pas sur le cinéma d'animation, donc c'est pour ça que j'ai vu un intérêt à le faire. Et en revanche, il y en a relativement peu également, il y en a quelques-unes certes, mais il y en a relativement peu au niveau des Noirs dans la bande dessinée. Sachant qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais la bande dessinée, la caricature de presse, le dessin animé, ce sont des disciplines qui sont enchâssées les unes dans les autres, qui ont une histoire commune. Les caricaturistes de presse, par exemple, ont un petit peu bourlingué, ont un petit peu navigué artistiquement, intellectuellement et sur le plan de leur parcours personnel entre donc la caricature de presse, le dessin animé, qui était très très balbutiant, si vous voulez, au début du XXe siècle, et aussi le comic book aux États-Unis, aussi la bande dessinée. Donc vous avez comme ça une espèce de dialogue intermédiatique qui, moi, m'intéressait personnellement, et de voir la représentation de l'autre là-dedans.
Quand vous dites personnellement, Pierre Kra, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous êtes posé aussi des questions, vous, en tant qu'enfant, qu'adolescent, quand vous lisez ces bandes dessinées, et sur la représentation ou la place accordée aux Noirs ?
Avec mon regard d'enfant, évidemment, on n'a pas, même si on sent certaines choses, on n'a pas forcément le recul historique, le recul intellectuel qu'on peut avoir une fois qu'on les étudie, une fois qu'on rentre en profondeur. Mais oui, un enfant, lorsqu'il y a quelque chose de caricatural, lorsqu'il y a une représentation qui est outrée, qui n'est pas dans un cadre, j'ai pas envie de vous dire normal, parce que qu'est-ce que la norme, mais vous le sentez, je pense, instinctivement, que quelque chose n'est pas forcément en votre faveur, surtout si vous-même vous êtes afro-descendant ou noir, en l'occurrence, vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas, qui est péjoratif, qui est de l'ordre du péjoratif.
Vous l'avez ressenti en tant que lecteur, enfant, adolescent, Pierre Kra ?
Comme tout le monde, hein, je pense comme tout le monde. Hein. J'ai pas forcément d'exemples qui me viennent en tête parce que ça fait très longtemps que je suis plus un enfant, malheureusement pour moi. Moi-même, j'ai eu des questionnements, tout enfantin qu'il soit, j'ai eu des questionnements par rapport à certaines œuvres comme Tintin au Congo, par exemple. Je me posais la question du pourquoi Tintin, j'adorais Tintin quand j'étais petit, j'en ai lu énormément, on m'en lisait aussi énormément. Pourquoi est-ce que ces personnages sont représentés sous une certaine forme, sous certains traits ? Pourquoi, en fait ? Pourquoi est-ce qu'ils sont ? C'était de la caricature, en l'occurrence. Hergé l'a lui-même dit, d'ailleurs. Il a lui-même avoué qu'il s'est basé sur des on-dits, sur des poncifs récurrents qui existaient en Belgique à l'époque. Donc, même si vous êtes enfant, que vous ne le sentez pas, vous ne savez pas ça, évidemment, mais vous avez tout de même cet arrière-plan qui vous fait dire que c'est... Voilà, il y a quelque chose qui vous titille, qui vous intrigue, qui vous gêne même parfois. Et c'est qu'une fois après, avec tout le recul historique, la connaissance, que vous apercevez que oui, il y a des biais cognitifs, des biais intellectuels, des biais culturels qui sont liés à tout ça.
Pierre Kra, vos travaux universitaires ont été médiatisés, connus l'année dernière avec la sortie du film La Panthère Noire.
Oui.
Donc, oui, parce que c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait un universitaire, un historien en l'occurrence, qui avait travaillé sur cette question-là. Le succès du film aidant vous a beaucoup interviewé. Alors, s'il fallait partir de cette bande dessinée, de cette époque, donc les États-Unis, les années 60, ce personnage créé par deux grands auteurs de la bande dessinée américaine, c'est-à-dire le scénariste Stan Lee, le dessinateur Jack Kirby, en quoi la Panthère Noire, Black Panther, est un événement important dans la représentation des Noirs dans la bande dessinée?
En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le personnage de Black Panther arrive à un moment de l'histoire des États-Unis et de l'histoire africaine-américaine, en l'occurrence, qui est charnière. Il arrive en 1966. Qu'est-ce qui se passe en 1966? Un an avant, on a Malcolm X qui est assassiné. On a toute cette idéologie fraternaliste, enfin fraternelle en l'occurrence, qui a été l'idéologie d'intégration prônée par Martin Luther King, qui ne fonctionne plus. Martin Luther King sera assassiné 3 ans plus tard, donc en 1968. Ça ne fonctionne plus. On se rend compte que l'intégration, ce n'est pas pour tout de suite. En 1964, donc juste un an avant l'assassinat de Malcolm X, il y a une loi qui est passée qui rend inconstitutionnelle la ségrégation. Donc en principe, les Noirs et Blancs sont égaux dans les États du Sud, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Or, ce qui se passe, c'est qu'en 1966, on a toute cette jeunesse noire aux États-Unis qui est très motivée, qui est très remontée également, qui ne veut plus, littéralement, je reprends les mots de Martin Luther King, qui ne veut plus tendre l'autre joue, et qui s'insurge de tout ce qui est en train de se dérouler sous ses yeux. D'ailleurs, le hasard du calendrier veut qu'en 1966, quelques mois après la publication de la première apparition de Black Panther,
bien de préciser première apparition, parce qu'il ne sera pas un héros à part entière tout de suite. Oui.
Non, pas tout de suite. Il était, je crois, une partie de l'univers des Quatre Fantastiques,
absolument,
il me semble. Et quelques mois après, on a donc la fondation, en octobre 66, du parti des Black Panthers. Ceux qu'on connaît le plus, que l'histoire a retenu, si on veut. L'histoire avec un grand H et pas forcément l'histoire de la bande dessinée, mais vous avez le parti des Black Panthers, donc qui est un parti politique qui vise à l'émancipation, qui vise à l'autodétermination du peuple noir, etc., etc. Et le hasard du calendrier fait que ça tombe la même année, à quelques mois près de cette création. Donc on a vraiment tout ce contexte-ci, qui est un contexte de changement. La jeunesse noire est beaucoup plus radicale, veut s'émanciper par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé. Elle ne veut plus de ces idéaux d'intégration, pour la plupart, et elle s'éloigne en fait des canons d'intégration de la partie noire bourgeoise des États-Unis.
Donc, Pierre Kra, en quoi ce personnage de Black Panther est-il différent des autres personnages noirs qui ont été représentés dans la bande dessinée américaine?
Déjà, c'est un personnage qui est africain, puisqu'il vient d'un royaume fictif, certes, mais qui est un royaume africain qui s'appelle le Wakanda. Le royaume du Wakanda, en soi, est un exemple déjà de réussite économique, de réussite politique. C'est un royaume qui vit en autarcie totale par rapport à l'Occident. Et surtout, le personnage en soi, c'est ni un personnage secondaire, ni un personnage, ce qu'on appelle un sidekick en anglais, donc c'est-à-dire le copain un petit peu rigolo du héros qui intervient pour l'aider et le débarrasser de toutes les situations un peu difficiles. Et vous avez donc Black Panther, qui est le personnage principal. Le comic book s'appelle Black Panther lui-même, donc c'est vraiment le héros, le personnage central de cet univers-là. Et c'est un roi qui doit veiller sur son peuple, c'est un roi qui a des choix à faire, qui est tantôt bienveillant, tantôt assez dur, etc. Mais c'est un personnage qui est complexe, déjà, qui n'est pas monolithique, et qui s'inscrit vraiment en rupture par rapport à tout ce qu'on a pu voir auparavant. J'ai en tête, par exemple, le personnage de Lothar, pour les
gens serviteur de Mandrake.
Tout à fait, de Mandrake, dans les années 30, qui lui, d'ailleurs, est en train de changer. Qui est en train de changer, justement.
Qui va évoluer, avec la société.
Tout à fait. Tout à fait, puisqu'il passe un petit peu de personnage qui est quasiment muet, qui est habillé en peau de bête, qui est un personnage d'indigène, entre guillemets, à un personnage vraiment secondaire qui vient aider Mandrake, mais qui reste aussi un prince dans son royaume. Et là, pour la première fois, on a un personnage qui est directement avec Black Panther, est un roi, est un personnage central, est important, et surtout qui n'est absolument pas caricatural.
À qui s'adressait à l'époque cette série de bandes dessinées Black Panther, Pierre Kra? Est-ce que ça s'adressait à un nouveau public, le public des Noirs? L'idée de départ, c'était quand même de, de proposer un super-héros de couleur, mais pour tout le monde, à la manière de Superman ou de Batman. Mm-hmm.
C'est très difficile de se prononcer a posteriori, mais je vous dirais que c'est plutôt qui s'adresse au plus grand nombre de gens possible, des noirs bien entendu, mais aussi des blancs qui voudraient voir un renouveau par rapport à tout ça, qui étaient majoritairement des jeunes, puisque le comic book, c'est pas forcément réservé aux jeunes, mais l'audience principale, première qui est visée, ce sont des jeunes gens, majoritairement. Donc, dans le cas de Black Panther, je pense que ça s'adresse un peu à tout le monde. Voilà, tout le monde peut y trouver son compte.
Alors, Pierre Krah, vous connaissez sans doute l'ouvrage de référence sur sur les images noires, la représentation des noirs de la bande dessinée mondiale de l'historien suédois Fredrik Strandberg, qui lui, avec une approche chronologique, a bien montré comment la présentation des noirs était d'abord des stéréotypes peu flatteurs, hein, parce qu'on avait tout, on avait l'indigène, on avait le copain mais un peu schnappant comique, on avait aussi le mauvais noir violent et rebelle. Est-ce qu'avec Black Panther, on remet en cause tous ces stéréotypes ou bien aujourd'hui on peut aussi questionner la représentation des Noirs à travers Black Panther ?
Je pense que de toute façon dans l'absolu, on peut toujours essayer d'en dresser une critique ou d'avoir un recul critique par rapport à une représentation ou par rapport à une époque. Mais ce qu'a fait Frédéric Stromberg, oui, c'est la description chronologique et de voir surtout sur un temps long l'évolution. Puisque aux États-Unis, en tout cas, les premières représentations des Noirs dans les... Alors, c'est pas des comic books à l'époque, ce sont des comic strips, donc ils sont parus dans la presse. Ça date du 19e siècle. Donc, on a vraiment un temps extrêmement long. Et quand on arrive à Black Panther, on a plus de 150 ans de représentations derrière nous qui sont influencées par l'histoire avec un grand H et aussi par le médium en soi de la bande dessinée. Et du coup, Black Panther, on peut toujours en dresser une critique, mais... En l'occurrence, il a vraiment été là un moment charnière. Donc c'est ce qui le rend intéressant historiquement, ça le rend aussi intéressant pour le public, et c'est ce qui le rend aussi intemporel, parce que c'est la grande force des super-héros de Marvel, c'est que ce sont des super-héros, enfin la figure du super-héros en tant qu'allégorie, est constamment renouvelée par rapport à un contexte, son contexte environnant. Dans les années 60, les X-Men, voilà, c'était une métaphore de tous les gens qui étaient à la marge, donc les immigrés, les Noirs aux États-Unis, tous les gens qui souffraient du système dominant, etc., etc. Les gens qui souffraient de racisme, les mutants qui sont mis au banc de la société, ce sont les gens qui souffrent de racisme, quel qu'il soit. Black Panther, alors maintenant, avec le recul, on peut essayer de le prendre, bien sûr, avec des pincettes. Le seul petit argument, je suis biaisé parce que j'aime beaucoup ce comic book, et on voit d'ailleurs qu'il a évolué aussi, que Black Panther lui-même a évolué au sein de
jusqu'à l'adaptation cinéma, on va
tout
en
fait.
Parler, oui.
Tout
alors,
à fait.
C'est quoi le petit problème que
alors,
vous avez,
entre guillemets,
vous, Pierre Krah,
je mets des gros guillemets, ouais. Mais c'est la vision de l'Afrique par les États-Unis, qu'ils soient africains-américains ou qu'ils soient blancs-américains, il y a toujours cet éloignement géographique et l'éloignement idéologique qui fait que c'est une Afrique magnifiée, fantasmée.
La représentation des Noirs dans la bande dessinée américaine et française, on va y arriver dans le réveil culturel. Dans un instant, nous serons rejoints par Sonia Deschamps du magazine Casemate.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
The world is a groovy place today, though it hasn't always been. You know, at one time, even black people thought that our blackness was a sin. So I know you feel what I do when I tell you how it feels to know that black sure is beautiful. It makes your soul feel real. Black is so beautiful. No wonder are you hip to that. I mean, black is so beautiful, and that's just where it's at. All around your brothers and sisters are kinda getting into their thing. I mean, minds are becoming blackened eyes, and it makes you wanna sing. It's such a gas when you think about how nothing could keep the black man down. Even though they tried to hide it, check out all this bad black pride that we found. Black is so beautiful. I mean, it makes you wanna say right on. Black is so beautiful, and it's good to see the old days gone. Hey, touch that fine black skin. You know, when you think about it, tans do prove that black is in. My third world people, above all others, we know where you're all at. Black is beautiful, and so are you. You see, we look at you as blacks. I want to say right here that if you're down, pride in our color. Number one, wherever you're at, you see, you obviously ain't a brother. And number two, black pride ain't a racist bag, it's just digging what we have. We were too long in that other bag to even realize what we had. Yeah. All across the world.
Journée spéciale sur France Culture à l'occasion de l'exposition Le Modèle Noir. Et dans le réveil culturel, on reçoit l'historien Pierre Krah qui lui a travaillé sur les archétypes, caricatures et stéréotypes noirs dans la bande dessinée et le film d'animation. Là, on vient d'écouter Gary Bird, c'était en 72, Black is Beautiful. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de cette année-là, les choses sont bien cadrées, la représentation des Noirs américaines ne pose plus de problème, Pierre Krah?
Alors, plus de problèmes, ce serait beaucoup dire, mais pour schématiser, pour résumer vraiment la chose, on peut dire qu'on n'est plus du tout dans la même dynamique que ce qu'il y a eu durant 50 ans, voire quasiment 100 ans auparavant. En 72, je pense à ça, là, je vois notamment, c'est la publication de Luke Cage, qui a eu droit à sa série récemment sur Netflix, qui s'inscrit dans la continuité de la Blaxploitation, donc au cinéma, dans le fait de magnifier, de mettre en avant, de mettre en scène des personnages de héros noirs qui soient forts, quelquefois à l'extrême, parce que parfois ils sont un peu hyper virilistes dans certains cas, donc c'est pas sans poser d'autres problèmes, c'est ce que je vous disais justement. Mais en tout cas, on n'est plus dans les stéréotypes qui avaient cours peut-être 20 ou 30 ans avant, puisque ce qui a changé vraiment la donne, en l'occurrence, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1946, on n'est plus du tout dans cette optique-là. Les Américains ne veulent plus entendre parler de ça, puisqu'ils, justement, ils ont été, les vétérans noirs notamment, je pense à ça, ont été se battre sur le front européen, et une fois qu'ils sont rentrés aux États-Unis, beaucoup de Noirs habitaient dans le sud des États-Unis, ils se retrouvent confrontés à la ségrégation, et du coup, ça ne passe plus. À partir de 1946-1947, il y a des mouvements à l'échelle nationale qui font que des mouvements de protestation à l'échelle nationale qui font que les caricatures des Noirs ne passent plus. Mais en 72-73, on est dans une autre dynamique. Il y a d'autres problématiques qui sont mises en place, qui sont tout à fait critiquables hein, depuis notre point de vue actuel. Comme je vous l'ai dit, l'hypervirilisme, etc.
Alors, est-ce que la question qui se pose, Pierre Krah, c'est par qui sont représentés ces super-héros noirs? Parce qu'on sait, Black Panther, c'est une création de Jack Kirby au dessin, de Stan Lee au scénario. Pour l'adaptation du film, Marvel a décidé que ça allait être un film avec un super-héros noir réalisé par des Noirs, avec un public noir visé, même si le succès a dépassé. On arrive au temps d'aujourd'hui, à la polémique de l'appropriation culturelle, par qui doit être représenté les personnages noirs, les super-héros noirs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'historien impliqué dans ces représentations, Pierre Krah?
Une très vaste question. Et oui, effectivement, il y a cette problématique de ce qu'on appelle maintenant l'appropriation culturelle. Est-ce qu'on peut, en tant que non-noir, se saisir d'un sujet, d'un personnage noir pour essayer de le représenter? Je pense qu'il faut bien dissocier deux choses. C'est le savoir en soi qui est encyclopédique et accessible à chacun, et la question de l'expérience. Le fait est que lorsque vous avez un personnage qui se veut être porteur, qui se veut être une allégorie de l'expérience noire, je prends l'exemple des États-Unis, qui se veut être porteur de l'expérience noire aux États-Unis, il vaut mieux l'avoir vécu de l'intérieur pour pouvoir le retranscrire avec le plus de justesse possible. Mais en l'occurrence, si vous êtes un chercheur, que vous êtes blanc, il y a énormément de chercheurs blancs qui ont travaillé sur les noirs dans la BD, sur les noirs dans le cinéma, tant que vous n'abordez pas la problématique sous un angle qui pourrait être vu comme condescendant, je ne pense pas que ça pose de problème en soi.
Même si c'est le débat actuel.
Oui, tout à fait.
Alors, bonjour Sonia Deschamps.
Bonjour.
Notre ami et partenaire du magazine de bande dessinée Casemate. Il y a quelques semaines, en interviewant autour justement d'une énième affaire Tintin au Congo, le dessinateur Jules, il avouait qu'il avait aussi un problème avec toute la génération des auteurs comme Hergé, en disant Hergé, il a eu droit à son procès, mais au moins lui, il a fait cet album, et donc il y a eu un album, mais pour les autres, il y a eu juste une absence totale de la représentation des Noirs, et lui-même qui reprend justement Lucky Luke, on le sait, il voudrait représenter les Noirs, il voudrait parler de l'esclavagisme aux États-Unis à cette période-là, et il se rend compte que effectivement c'est très délicat. Aujourd'hui, dans la bande dessinée française ou franco-belge, ou on peut même dire européenne, puisqu'il ne faut pas oublier l'Italie, le bon exemple de Hugo Pratt, qui va parler bien sûr de l'Éthiopie, pays qu'il a connu, puisque son père a été dans cette colonie-là, et il a créé à travers sa série éthiopique un personnage, un héros comme un autre. Elle en est où aujourd'hui, la bande dessinée française, dans la représentation des Noirs,
Je ne saurais pas vraiment dire, peut-être de manière générale, mais déjà, quand vous m'avez donné le thème de l'émission, c'est vrai qu'il y a une héroïne à laquelle j'ai pensé immédiatement, spontanément, c'est Aya. Aya de Yopougon, vous savez, c'est cette jeune femme de 19 ans qui vit à la fin des années 70 à Abidjan. Dans la série qui porte donc son nom, Aya de Yopougon, on suit son quotidien, tout simplement, les études, les parents, les amours, des petits riens qui pourtant dans cette série deviennent complètement passionnants. Les dialogues mélangent français et expressions ivoiriennes, on est tout de suite très proche des personnages, on est avec eux vraiment, qu'on ait un jour mis les pieds à Abidjan ou pas du tout comme moi. C'est vraiment hyper vivant, sensible aussi, on rit beaucoup. La scénariste, on posait la question de qui représente les Noirs en bande dessinée, c'est Marguerite Aboué, qui est elle-même ivoirienne et qui a grandi à Abidjan, dans le quartier populaire de Yopougon, comme Aya. Elle vit depuis l'âge de 12 ans en France, Marguerite Aboué. Je dis scénariste en parlant de Marguerite Aboué, mais elle dit plutôt dialoguiste, parce que c'est les dialogues qu'elle aime vraiment quand elle écrit. Ça se sent vraiment, le plaisir est vraiment communicatif dans ses échanges. Les dessins, ce sont ceux de Clément Oubrery, le dessinateur de Pablo, de René Stone, entre autres. Aya de Yopougon, c'est 6 tomes publiés entre 2005 et 2011, plus de 700 000 exemplaires vendus. Il y a aussi un dessin animé qui est sorti au cinéma en 2013. Et Aya, c'est pas le seul personnage en fait qu'a créé Marguerite Aboué, le seul personnage africain. Je pense à Akissi, qui est en quelque sorte la petite sœur de Aya et dont les aventures sont dessinées par Mathieu Sapin. Et puis tout nouveau personnage aussi, tout récent, le commissaire Kwame, dessiné lui par Donatia Marie. Avec ses aventures, on est vraiment dans du polar, mais totalement loufoque.
Mais on est en Afrique,
une fois très réussi. Hyper dynamique. Effectivement, on est bien loin des séries, des images souvent associées à l'Afrique, la misère, la violence. Marguerite Aboué, elle a une écriture vraiment heureuse. Bien entendu, c'est pas la seule à mettre en scène des Africains ou des Afro-descendants et à le faire bien. Mais moi, j'ai le sentiment, en tout cas, Pierre saura sans doute mieux le dire que moi, mais que dans la bande dessinée, on est beaucoup dans le documentaire ou dans le reportage. Et quand on est dans de la fiction, pour l'instant en tout cas, effectivement, on en parlait tout à l'heure, les personnages noirs sont plus souvent des personnages secondaires. C'est vrai que des vrais héros de bande dessinée, où c'est un personnage noir qui serait au premier plan, je n'en vois pas tant que ça en bande dessinée. C'est vrai que la fiction a du mal justement à s'en emparer.
Qu'est-ce que vous dites là, Pierre Kras? C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'auteurs de bande dessinée afro-descendants, comme pour reprendre le terme de Sonia Deschamps, ou il y a une autre raison?
Alors le fait est qu'il y en a. Il y a des auteurs de bande dessinée qui sont afro-descendants, qui sont africains, qui sont dans la diaspora également. Mais je crois que c'est surtout le fait qu'en France, alors bon, là on n'a pas le temps d'en discuter, mais c'est surtout la façon dont fonctionne le marché de la bande dessinée en France qui est très très particulier. Et c'est très très compliqué de se faire éditer, de se faire publier, etc. Mais il y a véritablement une vivacité énorme d'auteurs qui sont eux-mêmes africains sur le marché africain, qui visent le marché africain, et qui décrivent des réalités africaines. Et effectivement, Aya de Yopougon,
c'est l'exemple. Et pour la France, ou pour l'Europe?
Je crois que c'est Coffin Guessant Roger, il me semble, ou Roger Coffin Guessant, je ne sais plus exactement, qui a publié notamment un tome sur Chaka, sur l'histoire de Chaka Zulu. Donc il y a effectivement une vivacité, il y a une nécessité aussi, une envie de se réapproprier son histoire et de faire en sorte qu'on ne l'inscrive plus dans...
Non mais c'est-à-dire aujourd'hui, quand il y a un super-héros dans la bande dessinée, que ce soit américaine ou française ou franco-belge, il est toujours lié à l'Afrique. Il n'y a pas un super-héros noir qui soit français, italien, allemand.
Alors, la bande dessinée franco-belge. Enfin, franco-belge ou européenne par extension. Ouais. Là, comme ça, à brûle pour point, j'en vois pas.
Et il y a eu des problèmes avec Ed Piskor. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur blanc américain qui a décidé de raconter l'histoire du hip-hop. Il est allé interviewer tous les grands rappeurs pour faire Hip-Hop Family Tree. Alors là, c'est très partagé. Il y a ceux qui adorent et puis d'autres qui disent que c'est vraiment le point de vue extérieur, c'est-à-dire sous-entendu par là, le point de vue d'un blanc sur un mouvement artistique noir.
Moi, je trouve à titre personnel une bande dessinée assez passionnante et en tout cas que ce soit n'importe qui se soit attelé au fait de raconter l'histoire du hip-hop et de le faire de cette façon, moi je trouve de toute façon que c'est une réussite. Après, est-ce que ça aurait été fait autrement si ça avait été fait par quelqu'un d'autre? Peut-être, mais en l'occurrence, c'est lui qui l'a fait.
Et c'est édité chez nous, chez Papa Guédé. Dernier coup de cœur de Sonia Deschamps, toujours pour parler de la représentation des Noirs dans la bande dessinée.
Oui, c'est un album tout récent qui a été publié au mois de janvier dernier chez Dargaud Noir, La vie méconnue de Claudette Colvin, c'est d'Émilie Plateau. Alors, on était dans la fiction avec Marguerite Abouet. Là, on est plutôt dans du documentaire. Ça raconte donc la vie de Claudette Colvin, une adolescente afro-américaine qui, en fait, dans les années 50, dans sa petite ville où elle habitait, dans l'état de l'Alabama, eh bien, refusait de céder sa place à une femme blanche dans un bus. C'était quelques mois avant Rosa Parks, dont on se souvient tous du nom. Et pourtant, Claudette Colvin, on l'a oublié complètement, son nom. On va comprendre dans cet album pourquoi, hein, parce qu'elle était jeune, qu'elle vivait dans un quartier très pauvre, qu'elle avait la peau très foncée. Ça parle bien sûr de la ségrégation, de la lutte contre la ségrégation, du combat des femmes aussi très important. Alors Émilie Plateau, elle avait l'habitude jusqu'à présent de raconter plutôt des récits autobiographiques. Là, c'est la vie d'une autre qu'elle raconte et c'est l'adaptation d'un roman de Tania de Montaigne. Et je vous recommande vraiment de le découvrir parce que tout à l'heure, on parlait de la représentation.
Ouais, c'est édité là, chez Dargo.
Tout à fait. Et on n'est pas dans justement le côté pathos, dans le côté trop personnel. On a cette distance qui fait que c'est documentaire et que c'est passionnant et que c'est vraiment... On a l'impression d'assister à un petit théâtre de marionnettes de papier coupé.
Mais je connais bien l'histoire de Claudette Colvin.
Merci beaucoup Pierre Cras, je rappelle que vous êtes historien, vous pouvez réécouter bien sûr cette émission en passant par franceculture.fr. Le Réveil culturel est réalisé par Vincent Abouchard avec Corinne Amar et Maël Ray pour la coordination. Et c'est bien sûr Emmanuel Morstincan qui était à la technique. La journée spéciale de France Culture autour de l'exposition Le modèle noir qui s'ouvre cette semaine au musée d'Orsay continue. Merci d'avoir participé, vous public du Salon du Livre, au Réveil culturel. Merci. Thank you.